Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'idéal pour un commissaire de police est d'être marié à une femme capricorne. Les capricornes, paraît-il, ne jettent jamais rien. Et même dans le cas d'une enquête menée quasiment en pantoufles et robe de chambre, il est important de pouvoir retrouver ses dossiers. L'épouse du commissaire Maigret ? Ah, Madame Maigret ne comprend pas toujours ce que mijote son commissaire de mari. Lui non plus, si ça se trouve. Il ne cherche pas à comprendre tout de suite. Il s'immerge dans un milieu nouveau pour commencer. En tout cas, 9 fois sur 10, ses enquêtes le plongent dans un milieu nouveau. Mais le jour de Noël, un Noël sans neige, un Noël au brouillard épais et jaunâtre, alors qu'il n'est chargé aucunement d'enquête officielle, c'est bien une affaire sans dépaysement, aucun qui se présente. Tout se passe presque dans sa maison, enfin dans un univers proche du sien. Aucun hasard, aucun coup de théâtre. Un Père Noël tout de même, dans ce Noël de Maigret. Un Noël de Maigret, première diffusion sur France Culture le 6 novembre 1982. Maigret, dans les éditions Omnibus, publie l'intégrale de ses enquêtes en 10 tomes, 75 romans et 28 nouvelles avec des couvertures originales de Loustal.
Un Noël de Maigret, de Georges Simenon. Adaptation Eulalie et Jean-Jacques Stein. Avec Jean-Marc Thibault, le commissaire Maigret. Simone Renan, Madame Maigret. Direction artistique, Jean-Wilfried Garrett.
1. Noël de Maigret. Ce jour-là, le commissaire Maigret de toutes les personnalités que j'ai approchées dans ma carrière de journaliste, c'est au commissaire Maigret que je dois mes plus belles interviews. Avec lui, ça a l'air facile. Eh bien, justement, ça n'est pas si facile. Parce que sa morale de policier et son comportement d'homme se résument à ceci. Je ne juge jamais, j'essaie de comprendre. Et c'est cette règle de vie qui nous conduit aujourd'hui à un certain jour de Noël.
Joyeux Noël, Maigret. Oh, tu t'es levé. Moi qui me réjouissais de te servir ton petit déjeuner au lit. Hier soir, tu m'avais pourtant promis que...
Je sais, je sais. Demain, je fais la grasse matinée.
Une fois de plus, je serai pris au mot, comme d'habitude. Tu veux pas te recoucher?
Oh non, non. Non, j'en ai pas le courage. Joyeux Noël, Madame Maigret.
Joyeux Noël, Maigret. Ah, allez, revenons dans la salle à manger.
Tu m'en veux, hein? Ben, j'ai 100 fois essayé, délicatement, de te faire entendre que c'est pas un plaisir pour moi de rester au lit. J'ai l'impression d'être malade ou impotent.
Et moi, j'ai 100 fois essayé de te faire entendre que le petit déjeuner au lit reste pour moi l'idéal des dimanches et des jours de fête.
Oh, 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 les beaux croissants dorés et croustillants. Oui, Amelot, hein? Je t'ai entendu descendre tout à l'heure.
Oh, tu faisais semblant de dormir.
Oh, c'était touchant de te sentir bouger avec précaution dans les draps. Je l'ai pas bronché, hein? Je me suis astreint à respirer régulièrement comme un homme endormi, ça ressemblait à un jeu. Bon, j'ai eu tort. Non. Je suis capable d'un grand sacrifice pour te faire plaisir, mais pas de rester au lit alors que je n'en ai plus envie. Je ne mange jamais le matin, je me contente d'un café noir. Mais, selon un de tes rites, les dimanches et jours de fête, je suis censé rester au lit jusque tard dans la matinée. Tu es navré, hein? Et tu es déçu. Moi aussi, je suis déçu.
Parce que je suis allée chercher des croissants chauds au coin de la rue Amelot. Mais ce sont les meilleurs.
Non, parce qu'il ne neige pas. Oh. C'est ridicule, hein, passé 50 ans, d'être encore déçu parce qu'il n'y a pas de neige un matin de Noël.
Oh. Que veux-tu, les gens d'un certain âge ne sont jamais aussi sérieux que les jeunes le croient.
Et nous sommes traditionnalistes.
Oh, pas au point de mettre encore nos chaussures dans la cheminée.
Nous sommes tout de même allés au théâtre. Depuis le temps que j'avais envie de voir les parents terribles.
Avec ton métier, ça n'est jamais facile de faire des projets.
La pièce est vraiment remarquable. Yvonne Debray et Gabriel Dorzia encore plus.
Oh, et Jean-Marie et Josette D. As-tu jamais vu un plus beau couple? Et Marcel André. Oh, il me plaît, cet homme.
Je suis heureux que tu aies passé une bonne soirée. Ah, c'est bien de moi. Je pense à louer des places au théâtre, mais non à retenir une table au restaurant. Ensuite, j'aurais volontiers mangé un petit morceau.
Pour faire comme tout le monde? Au lieu de réveillonner, nous sommes revenus à pied, bras dessous, comme des amoureux. Et nous avons même pu faire un petit crochet par Saint-Ambroise, juste pour entendre mon minuit chrétien.
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle.
Et tout de suite, en rentrant, nous avons échangé nos cadeaux. Comment est-elle, ta pipe?
Ah, parfaite. C'est même pour ça que je me suis levé ce matin, j'avais hâte de la baptiser.
Menteur.
Seulement, je te le précise encore une fois pour la prochaine pipe, veille à ce que le foyer soit un peu plus large et plus creux.
Oui, eh bien la prochaine fois, ne m'offre plus de mouchoirs brodés. J'en ai pour toutes les communiantes du quartier.
Et ta cafetière électrique? Juste le modèle perfectionné qui te faisait envie.
Et comment as-tu trouvé mon café?
Oh, extra. Ah, le ciel est triste et bas, hein, d'un vilain blanc. Il a l'air de peser sur les toits. Le boulevard Richard Lenoir est désert.
Il est à peine 8h30.
Il y a des lumières par-ci, par-là. Ce sont les enfants qui se précipitent vers l'arbre et les jouets. On va entendre tambour, trompette et pistolet.
Il commence à neiger.
Oh, de la poussière de neige. Ça me rappelle quand j'étais petit. Je tirais la langue pour en happer quelques grains.
Qu'est-ce que tu regardes?
Ces deux femmes, là, qui viennent de sortir de l'immeuble d'en face, à gauche des entrepôts. La blonde a une trentaine d'années, elle a jeté un manteau sur ses épaules sans passer les manches. L'autre, toute petite et toute maigre.
Mademoiselle Doncoeur.
Est déjà apprêtée comme si elle se rendait à la messe. Elle désigne nos fenêtres. La blonde hésite. Tiens, la concierge vient à la rescousse de la maigre. Et la blonde se décide à traverser la rue.
Oh, j'espère qu'elles ne vont pas te déranger le jour de Noël. Mon ménage n'est même pas fait.
Qui pourrait s'en apercevoir? En dehors du plateau à déjeuner, rien ne traîne. Et bien malin qui découvrirait un grain de poussière sur les meubles.
Tu es sûr qu'elles viennent ici?
Nous verrons bien. Par précaution, je vais me brosser les dents et me rafraîchir le visage.
Tu devrais mettre un costume.
Oh, et puis quoi encore? Pourquoi n'aurais-je pas le droit, alors qu'on vient me déranger chez moi un matin de Noël à 8h30, de me montrer en robe de chambre?
Tu as peut-être raison, mais...
Bon, j'ai quand même passé un pantalon sous ma robe de chambre.
Je ris parce que je connais un peu Mademoiselle Doncoeur. Elle habite en face de chez nous, au même étage. Elle travaille toute la journée près de sa fenêtre. Elle exécute de la broderie fine pour une maison du Faubourg Saint-Honoré.
Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans tout ça?
Attends la suite. Oh, tu as raison, les voilà. Oh.
Bonjour, Madame Maigret. Excusez-nous de vous déranger en ce jour de Noël. Mais je vous en prie, je vous en prie.
Mon vieux pantalon gris fera l'affaire.
Tenez, vous aussi, madame, je vous en prie, asseyez-vous.
Merci.
J'ai bien été obligée de les faire entrer au salon. Elles veulent absolument te parler. Elles prétendent que c'est peut-être important, qu'elles ont besoin d'un conseil. Alors...
Alors, j'attends la suite qui te faisait rire.
Ah oui. Je me suis demandé si Mademoiselle Doncoeur, la brune, la maigre, de près, elle fait plutôt 50 ans que 45. Enfin, bref. Est-ce qu'elle ne serait pas un peu amoureuse de toi?
Oh, quelle drôle d'idée.
Quand tu t'en vas, je t'adresse toujours un petit signe par la fenêtre auquel tu réponds. Et elle, invariablement, soulève le rideau. Et comme moi, elle te suit des yeux.
Pourvu que le conseil qu'elle souhaite ne concerne pas le courrier du cœur. Excusez-moi, mesdames.
Monsieur le commissaire, ce n'est pas moi qui ai voulu venir.
Madame Lorraine Martin et moi, je suis Mademoiselle Doncoeur.
Vous vous demandez peut-être comment...
Non, excusez-moi, mademoiselle, madame, je vous en prie. Donnez-vous la peine de vous asseoir.
Merci, monsieur. Nous avons eu l'audace de nous adresser à vous. Comme tout le quartier, nous savons évidemment qui nous avons l'honneur d'avoir pour voisin. Nous vous empêchons de finir votre petit déjeuner.
Non, j'avais fini. Ma femme n'a pas eu le temps d'enlever le plateau. Alors, je vous écoute.
Il s'est passé ce matin, ou plutôt cette nuit, dans notre immeuble, un événement si troublant que j'ai pensé tout de suite que notre devoir était de vous en parler. Madame Martin ne voulait pas vous déranger, mais je lui ai dit que...
Vous habitez en face aussi, madame Martin?
Oui, monsieur le commissaire.
Oh, mais nous habitons le même étage, juste en face de vos fenêtres. Monsieur Martin est souvent en voyage pour ses affaires, ce qui est compréhensible, puisqu'il est représentant de commerce. Et depuis 2 mois, Colette, leur petite fille, est au lit, à la suite d'un accident ridicule.
Vous avez combien d'enfants, madame Martin?
C'est-à-dire que Colette n'est pas notre fille, mais notre nièce. Sa maman est morte il y a un peu plus de 2 ans, et depuis, l'enfant vit avec nous. Elle s'est cassée la jambe dans l'escalier, et elle aurait dû être établie après 6 semaines, s'il n'y avait pas eu des complications.
Votre mari est avec vous actuellement?
Il doit se trouver en Dordogne.
Ah, merci. Je vous écoute, mademoiselle Doncoeur.
Ce matin, je me suis levée de bonne heure, comme d'habitude, pour aller à la première messe. Je suis rentrée vers 7h30, car j'ai entendu 3 messes. J'ai préparé mon petit déjeuner. Vous avez pu voir de la lumière à ma fenêtre.
Non, je n'y ai pas pris garde, excusez-moi.
J'avais hâte de porter quelques douceurs à Colette, pour qui c'est un triste Noël.
Quel âge a-t-elle?
7 ans. C'est bien cela, madame Martin?
Elle aura 7 ans, janvier.
À 8h, j'ai frappé à la porte de l'appartement.
Je n'étais pas levée, il m'arrive de dormir assez tard.
Madame Martin m'a fait patienter le temps d'enfiler un peignoir. J'avais les bras chargés et je lui ai demandé si je pouvais remettre mes cadeaux à Colette. Nous avons ouvert ensemble la porte de sa chambre.
La petite a une chambre pour elle seule?
Oui, le logement se compose de 2 chambres, d'un cabinet de toilette, d'une salle à manger et d'une cuisine.
Nous avons donc ouvert la porte, et comme il faisait sombre, Madame Martin a tourné le commutateur électrique.
Colette était éveillée?
Oui. On voyait bien qu'il y avait longtemps qu'elle ne dormait plus et qu'elle attendait. Vous savez comment sont les enfants le matin de Noël? Si elle avait pu se servir de ses jambes, elle se serait sans doute levée pour aller voir ce que le Père Noël lui avait apporté. Et peut-être aussi qu'une autre enfant aurait appelé. Mais c'est déjà une petite femme. On sent qu'elle pense beaucoup, qu'elle est plus vieille que son âge.
Votre appartement doit être celui de droite, tout au bout de l'immeuble où 2 fenêtres sont éclairées.
C'est exact, monsieur le commissaire.
Dès la porte ouverte, je lui ai dit textuellement
« Joyeux Noël !» « Regarde, chérie, ce que le Père Noël a déposé pour toi dans ma chambre. »«
Je l'ai vu. »«
Tu as vu qui ?»«
Le Père Noël. »«
Et quand l'as-tu vu? Où ?»«
Ici, cette nuit. Il est venu dans ma chambre. »«
Comment as-tu pu le voir puisqu'il faisait noir ?»«
Il avait une lumière. »«
Il a allumé la lampe ?»«
Non, il avait une lumière électrique. Je t'assure, maman Lorraine, il avait une barbe blanche et une robe rouge. »«
Colette, tu es arrivée, ce n'est pas possible, tu dormais. À quel moment l'aurais-tu vu ?»
Je sais pas, moi, dans la nuit. J'ai ouvert les yeux parce que je croyais voir une lumière. Et il y avait vraiment une lumière qui éclairait une partie du plancher devant la cheminée. Il était penché, comme accroupi. Et il avait l'air de travailler.
Tu n'as pas eu peur?
Il n'y a pas à avoir peur du Père Noël. Il faisait un trou dans le plancher. Il voulait entrer chez les gens en dessous, chez le petit garçon des Delorme. Parce que la cheminée est sans doute trop étroite. Il m'a regardé. Il s'est levé et il a posé une grande poupée sur le lit en mettant un doigt sur ses lèvres. « Regarde, maman Lorraine !»
Elle a vraiment vu quelqu'un lui apporter une poupée?
La petite, avec un sourire malin, a écarté son drap et nous a montré dans le lit, serrée contre elle, une magnifique poupée qui n'était pas là la veille dans la maison.
Et vous, madame Martin, vous ne lui avez pas donné de poupée?
J'allais lui en donner une, beaucoup moins belle, que j'ai achetée hier après-midi aux galeries. Je la tenais derrière mon dos quand nous sommes entrés dans la chambre. Je ne comprends pas ce que ça signifie, à moins que mon mari en sache plus long.
Et Colette l'a vu sortir, ce Père Noël?
Oui.
Par le plancher?
Non, par la porte. Ah, je dois vous préciser, on peut entrer directement chez Colette sans passer par l'appartement. Avant, la chambre était louée à part. Elle possède donc 2 portes. L'une ouvre sur le logement et l'autre sur le palier.
La porte du couloir n'était pas fermée à clé.
Elle l'était. Je n'allais pas laisser l'enfant dans une chambre non fermée.
Alors la porte a été forcée.
Je ne sais pas. Mademoiselle Doncoeur a tout de suite proposé de venir vous voir.
Vous avez découvert un trou dans le plancher?
pas un trou à proprement parler, mais on voit très bien que les lattes ont été soulevées.
Et dites-moi, Madame Martin, avez-vous une idée de ce qui pouvait se trouver sous le plancher?
Mais non, monsieur.
Il y a longtemps que vous habitez cet appartement?
Depuis mon mariage, il y a 5 ans.
Et cette chambre faisait déjà partie du logement?
Oui.
Qui habitait ce logement avant vous?
Mon mari. Il a 38 ans. Quand je l'ai épousé, il avait déjà 33 ans et vivait dans ses meubles. Il aimait, quand il rentrait à Paris, après une de ses tournées, se trouver chez lui.
Croyez-vous qu'il a pu faire une surprise à Colette?
Il est à 600 ou 700 kilomètres d'ici.
Vous savez où?
Plus que probablement à Bergerac. Ses tournées sont organisées à l'avance et il est rare qu'il en modifie l'itinéraire.
Dans quelle branche travaille-t-il?
Il représente les montres Genève pour le centre et le sud-ouest. Une très grosse affaire, vous le savez sans doute. Et il a une excellente situation.
C'est le meilleur homme de la Terre, après vous.
Merci. Et en somme, si je comprends bien, quelqu'un s'est introduit cette nuit chez vous sous un déguisement de Père Noël.
La petite le prétend.
Vous n'avez rien entendu. Votre chambre est-elle...
Il y a la salle à manger entre les deux.
Vous ne laissez pas les portes de communication ouvertes la nuit?
Colette n'est pas peureuse et d'habitude, elle ne se réveille jamais. Si elle veut m'appeler, elle dispose d'une petite sonnette en cuivre placée sur la table de nuit.
Vous êtes sorti hier soir?
Non, monsieur le commissaire.
Vous n'avez reçu personne?
Je n'ai pas l'habitude de recevoir en l'absence de mon mari. Mademoiselle Doncoeur peut en témoigner.
Oh, je n'ai jamais accusé madame Martin de quoi que ce soit.
Vous vous êtes couché tard?
Tout de suite après que la radio ait joué « Minuit chrétien ». Jusqu'alors, j'ai lu.
Et vous n'avez rien entendu d'anormal?
Non.
Avez-vous demandé à votre concierge si elle a tiré le cordon pour des étrangers?
Je lui en ai parlé. Elle prétend que non.
Et ce matin, il ne manquait rien chez vous, madame Martin. Vous n'avez pas l'impression qu'on soit entré dans la salle à manger?
Non.
Et qui est avec l'enfant en ce moment?
Personne. Elle a l'habitude de rester seule. Je ne peux pas être toute la journée à la maison. Il y a le marché, les courses à faire.
Ah, oui, je comprends, oui. Oui, oh. Qui sait si votre mari n'est pas rentré à Paris plus tôt qu'il le prévoyait et si...
C'est sûrement quelque chose comme ça. Oui. Moi, je ne suis pas inquiète, et sans mademoiselle Doncoeur...
Pouvez-vous me dire où votre mari a des chances d'être descendu?
À Bergerac, hôtel de Bordeaux.
Vous n'avez pas pensé à lui téléphoner?
Il n'est pas habitué à ce que je lui téléphone.
Voyez-vous un inconvénient à ce que j'appelle l'hôtel de Bordeaux?
Il va se demander ce qui se passe.
Vous préférez rester dans l'incertitude? Non, vous pourrez lui parler.
Bon, comme vous voudrez, je lui parlerai.
Allô? Allô, l'Inter? Commissaire Maigret? Hein? Ah oui, oui, merci. À vous aussi, hein, bon Noël. Voulez-vous me donner l'hôtel de Bordeaux à Bergerac? Oui. Oui, c'est ça, vous me rappelez? Bon, merci. Bien, alors, revenons à Colette, si vous le voulez bien. Elle est orpheline, m'avez-vous dit?
Deux mères. Son père est le frère de mon mari, Paul Martin. Quant à savoir où il est, il y a plus d'un mois que je ne l'ai vu. Aux alentours de la Toussaint, je crois. Il finissait une neuvaine.
Pardon?
Oh. Autant tout déballer puisque nous voilà plongés dans les histoires de famille. Mon beau-frère boit surtout depuis qu'il a perdu sa femme. Il buvait déjà avant, mais pas d'une façon excessive et cela ne le portait pas aux bêtises. Il avait même une assez bonne situation dans un magasin de meubles du Faubourg Saint-Antoine. Depuis l'accident...
L'accident survenu à sa fille?
Je parle de celui qui a causé la mort de sa femme.
Ah.
Il y a environ 3 ans, un dimanche. Il s'est mis en tête d'emprunter l'auto d'un camarade et d'emmener sa femme et Colette, qui était toute petite, déjeuner dans une guinguette du côté de Mantes-la-Jolie. Paul n'a pas pu se retenir de boire trop de vin blanc. Au retour, l'accident s'est produit près du pont de Bougival. Sa femme a été tuée sur le coup, lui-même a eu le crâne défoncé, et c'est miracle qu'il ait survécu. Colette s'en est tirée indemne. Depuis, il n'est plus le même homme. Nous avons pris la petite chez nous. Nous l'avons pratiquement adoptée. Il vient la voir de temps en temps, quand il est à peu près sobre. Et puis... Tout de suite, il replonge.
Oui. Savez-vous où il vit?
Partout. Il nous est arrivé de le rencontrer, traînant la jambe à la Bastille, comme un mendiant. Certaines fois, il vend des journaux dans la rue. J'en parle devant mademoiselle Doncoeur, car malheureusement, toute la maison est au courant.
A-t-il pu avoir l'idée de se déguiser en Père Noël pour venir voir sa fille?
Mais c'est ce que j'ai dit tout de suite à Mademoiselle Doncoeur. Elle a insisté pour venir vous parler quand même.
Parce qu'il n'aurait pas eu de raison pour défaire les lattes du plancher.
Ah oui, oui, c'est juste. Allô, oui? Ah, l'hôtel de Bordeaux, oui. Une seconde. C'est à vous, madame.
Allô? Allô, je voudrais parler à monsieur Martin. Monsieur Martin, oui, s'il vous plaît. Bon, ça ne fait rien, je suis sa femme. Merci. Il dort toujours, on le sonne. Allô? C'est toi, Jean? C'est moi, Lorraine. Comment? Ah oui, oui, joyeux Noël. Oui, oui, tout va très bien. Colette aussi va bien. Mais non, non, rien de mauvais, ne t'inquiète pas. Quoi? Je te dis de ne pas t'inquiéter. Seulement, il y a eu la nuit dernière un incident bizarre. Quelqu'un habillé en Père Noël est entré dans la chambre de la petite. Mais non, on ne lui a fait aucun mal. Au contraire, il lui a donné une grande poupée. Poupée! Oui. Et puis, il a soulevé deux lattes du plancher qu'il a remises en place hâtivement. Mademoiselle Doncoeur a voulu que j'en parle au commissaire qui habite en face. Maigret. Oui. C'est de chez lui que je te téléphone. Tu ne comprends pas? Moi non plus. Tu veux que je te le passe? Bon, ne quitte pas. Il voudrait vous parler.
Oui, commissaire Maigret.
Dites-moi, commissaire, vous êtes sûr qu'on n'a pas fait de mal à ma femme ni à la petite?
Non.
C'est tellement ahurissant. Enfin, si avec la poupée, je pensais que c'est mon frère, mais... Lorraine... Lorraine, c'est ma femme.
Oui, je sais.
Lorraine vous en parlera. Mais il ne se serait pas amusé à soulever les lames du parquet. Vous ne pensez pas que je ferais mieux de revenir tout de suite? J'ai un train vers 3 heures cet après-midi. Bon, je peux compter sur vous pour veiller sur elle.
Mais oui.
Vous permettez, monsieur le commissaire? Allô? Tu vois, le commissaire est confiant. Non, laisse-moi parler. Il affirme qu'il n'y a aucun danger. Oh non, ce n'est pas la peine d'interrompre ta tournée au moment où tu as des chances d'être nommée à Paris. Colette est tranquille, elle joue avec sa poupée. Je n'ai pas encore eu le temps de lui donner ce que tu as envoyé pour elle. J'y vais tout de suite. Oui, je te promets de te téléphoner ou t'envoyer une dépêche s'il y avait du nouveau. Oui, moi aussi je t'embrasse. Oui, et la petite aussi. Vous voyez, monsieur le commissaire? Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Ce n'est pas ma faute. Je suis certaine qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie. À moins que ce ne soit une idée de mon beau-frère. Quand il a bu, on ne peut jamais prévoir ce qui lui passera par la tête.
Vous ne comptez pas le voir aujourd'hui? Il voudra rendre visite à sa fille, non?
Ça dépend s'il a bu ou non. Il a tout de même soin de ne pas se montrer à elle dans cet état. Il s'arrange quand il vient pour être aussi décent que possible.
Puis-je vous demander la permission d'aller tout à l'heure bavarder avec Colette?
Et pas à vous en empêcher, si vous croyez que c'est utile.
Oh, je vous remercie, monsieur Maigret. Cet enfant est tellement intéressant. Vous verrez.
À tout à l'heure, mesdames.
Elles sont drôles, toutes les deux. La blonde, madame Martin, a bien examiné notre appartement.
Elle n'a pas traversé le boulevard de gaieté de cœur. Elle en veut à Mademoiselle Doncoeur d'avoir été poussée à cette démarche. Allô, Lucas?
Ah, c'est vous, patron. Joyeux Noël.
Eh, bien que tu souhaites service à toi aussi. Bon Noël, hein? Rien de nouveau, pas trop de travail?
Non, non, presque rien du courant, quoi.
Bon, je voudrais que tu essaies de m'avoir quelques renseignements, hein? Tout d'abord, procure-toi la liste des condamnés qui ont été relâchés depuis, mettons, 3 mois.
Oui, mais de quelle prison?
Ah, ben de toutes. Bon, hein. Ne t'occupe que de ceux qui ont purgé une peine d'au moins 5 ans, hein? Essaie de savoir s'il y en a un parmi eux qui, à une époque de sa vie, aurait vécu boulevard Richard Lenoir. Tu entends?
Oui, mais je prends note, là.
Bon, autre chose. Il faudrait retrouver un certain Paul Martin, un ivrogne, sans domicile fixe, ouais, qui traîne assez souvent dans le quartier de la Bastille. Alors, ne pas l'arrêter, hein, ne pas le molester. Savoir où il a passé la nuit de Noël.
D'accord.
Les commissariats pourront t'aider. C'est pas tout, vieux. Appelle Bergerac. À l'hôtel de Bordeaux loge un voyageur de commerce nommé Jean Martin, hein? Jean, oui, pas Paul. Jean, c'est pas le même, c'est son frère. Je voudrais savoir si dans la journée d'hier ou dans la nuit, il n'a pas reçu un appel de Paris ou un télégramme. Et, ma foi, autant demander où il a passé la soirée. Voilà, je crois que c'est tout.
Je vous rappelle ?
Non, pas tout de suite, hein, il faut que je sorte. C'est moi qui te rappellerai.
Bon, dis donc, il s'est passé quelque chose dans votre quartier ?
Non, je sais pas encore. Peut-être. Dis donc, Madame Maigret, crois-tu que j'ai besoin de me raser pour aller voir la petite ?
Montre ça. Hein, coquive. Tu piques pas mal.
Ouais, bah, tant pis. Je pensais y aller tout de suite.
Oh, pas sans faire ta toilette, tout de même. Non, je fais couler ton bain pendant que tu te rases.
Ah, ben, tu comprends, je préfère traverser le boulevard comme ça en voisin, les mains dans les poches, sans par-dessus.
Sans par-dessus ?
Eh oui, pour vérifier cette histoire, je vais rester là-bas un bon moment, dans des tas d'appartements surchauffés, où on ne m'invitera même pas à me mettre à l'aise.
Enfin, si tu veux. Mais tu prends ton chapeau, hein ?
Oui, oui.
Oh, excusez-moi, monsieur Maigret, notre escalier est plus raide que chez vous. Par ici, monsieur Maigret. Madame Martin me confie ses clés quand je garde Colette en son absence. Moi, ça ne me dérange pas, j'habite en face. Madame Martin est sortie. Il y a un moment, j'ai eu beau lui dire qu'elle avait tort, que vous alliez venir, qu'elle ferait mieux de rester chez elle. Elle m'a répliqué qu'elle n'avait pas fait son marché hier, qu'il manquait de tout dans la maison et que plus tard, elle ne trouverait plus de magasin ouvert. Entrez. Je garde la petite en attendant. Colette se réjouit de vous voir car je lui ai parlé de vous. Elle a seulement peur que vous lui repreniez sa poupée.
Quand Madame Martin a-t-elle décidé de sortir ?
Oh, dès que nous sommes revenus de chez vous, elle a commencé à s'habiller.
Elle a fait une toilette complète ? Enfin, je veux dire, je suppose que pour aller faire des courses dans le quartier, elle ne s'habille pas de la même façon que pour aller en ville.
Oh, elle porte son tailleur gris, un chapeau et des gants. Elle a emporté son sac à provisions.
Ah. La cuisine est là ?
Oui, oui.
Elle avait mangé avant de venir me voir ?
Oh, je ne lui en ai pas laissé le temps.
Elle a mangé après ?
Non plus. Elle s'est juste préparé une tasse de café noir. Le plateau, là, ce sont les restes du déjeuner de Colette. C'est moi qui lui ai servi pendant que Madame Martin s'habillait.
Ah, le garde-manger. Vous permettez ?
Mais je vous en prie.
Alors, viande froide, légumes, des œufs, du beurre, deux pains frais qui ne sont pas entamés. Bon. Il y a les courants d'air dans cette cour. Hein. Vous connaissez bien Madame Martin ?
Oh, c'est une voisine, n'est-ce pas ? Je la vois davantage depuis que Colette est couchée, parce qu'elle me demande souvent de jeter un coup d'œil à la petite quand elle sort.
Ah, alors, la salle à manger.
Oui.
Qui est-ce les deux portraits de chaque côté de la cheminée ?
Le père et la mère de Monsieur Martin.
La chambre à coucher. La penderie. Même dans cette pièce, il n'y a pas de portrait des parents de Madame Martin, n'est-ce pas ?
Oh, j'ai jamais entendu parler d'eux. Je suppose qu'elle est orpheline.
Mademoiselle Tonka !
Oh, ah. Colette.
Allons voir la petite.
C'est vous, monsieur, qui êtes le commissaire ?
Oui, c'est moi, mon petit. N'aie pas peur.
J'ai pas peur. Maman Lorraine n'est pas rentrée ? Est-ce que vous croyez, vous, que c'est le Père Noël qui est venu me voir cette nuit ?
Oh, ben, j'en suis persuadée.
Maman Lorraine ne me croit pas. Elle me croit jamais.
Oh, je vis vite chez moi, voir si rien ne brûle sur le feu.
Tu veux bien que je m'assoie près de ton lit ?
Bien sûr, monsieur.
Tu aimes beaucoup ta maman Lorraine ?
Oui, monsieur.
Et ton papa ?
Lequel ? Parce que j'ai deux papas, vous savez. Papa Paul et papa Jean.
Il y a longtemps que tu as vu papa Paul ?
Je sais pas. Peut-être des semaines. Il m'a promis de m'apporter un jouet à Noël. Il n'est pas encore venu. Il a dû être malade. Il est souvent malade.
Et ton papa Jean ?
Il est en voyage. Il reviendra pour le nouvel an. Peut-être qu'il restera à Paris. Ah, il sera content. Et moi aussi.
Depuis que tu es couché, il y a beaucoup d'amis qui viennent te voir ?
Quels amis ? Les petites filles de l'école ne savent pas où j'habite. Ou si elles le savent, elles n'ont pas le droit de venir toutes seules.
Et les amis de maman Lorraine ou de ton papa ?
Il vient jamais personne.
Personne ? Tu es sûr ?
Hmm ? Seulement l'homme du gaz ou de l'électricité. Je les entends car la porte est presque toujours ouverte. Deux fois seulement, il est venu quelqu'un.
Ah, il y a longtemps ?
La première fois, le lendemain de mon accident. Ah oui, je m'en souviens parce que le docteur venait de sortir.
Qui était-ce ?
Je l'ai pas vu. J'ai entendu qu'on frappait à la porte et maman Lorraine a tout de suite fermé la porte de ma chambre. Ils ont parlé bas, assez longtemps. Après, elle m'a dit qu'il était venu l'ennuyer pour une assurance. Je sais pas ce que c'est.
Il est revenu ?
Hein ? Il y a 5 ou 6 jours. Un soir. C'était déjà éteint dans ma chambre, mais je dormais pas. Comme la première fois, on a frappé à l'autre porte et ils ont parlé bas. Ah, c'était pas Mademoiselle Doncœur qui vient parfois le soir tenir compagnie à maman Lorraine. J'ai eu l'impression qu'ils se disputaient. J'ai eu peur. J'ai appelé. Maman Lorraine est venue me dire que c'était encore pour l'assurance, que je devais dormir.
Il est resté longtemps ?
Ah, je sais pas. Je crois que je me suis endormie.
Et tu ne l'as vu aucune des deux fois ?
Non. Mais je reconnaîtrai sa voix.
Même quand il parle bas ?
Oui. Il fait un bruit comme un gros bourdon. Je peux garder la poupée, n'est-ce pas ?
Oh, bah naturellement. Elle est bien à toi. C'est là, devant la cheminée, que le Père Noël s'occupait ?
Oui, monsieur.
Dis-moi, le Père Noël n'a pas été fâché quand il a vu que tu le regardais ?
Non, monsieur. Il faisait un trou dans le plancher pour aller voir le petit garçon du second.
Il ne t'a rien dit ?
Je crois qu'il a souri. Je suis pas sûre à cause de la barbe. Il ne faisait pas très clair. Mais je suis certaine qu'il a mis un doigt sur sa bouche pour que je n'appelle pas. Parce que les grandes personnes n'ont pas le droit de le rencontrer. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, vous ?
Oh, il y a très longtemps.
Quand vous étiez petit ?
Oui.
Elle a été sage ? Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Il fallait que je sorte pour acheter diverses choses et plus tard, j'aurais trouvé les magasins fermés. Il fait meilleur dedans que dehors.
Vous n'avez rencontré personne ?
Que voulez-vous dire ?
Oh non, rien. Je me demandais si personne n'avait tenté de vous parler.
Excusez-moi, je viens voir si par hasard vous n'auriez pas besoin de moi.
Non, je vous remercie.
Et mademoiselle, j'aimerais que vous restiez avec Colette pendant que je m'entretiendrai avec madame Martin dans la salle à manger.
Ah oui, je comprends, mais...
Prenez le fauteuil. Vous permettez que je dépose mes provisions à la cuisine et que j'enlève ma jaquette ?
Ah oui, je vous en prie.
Mademoiselle Doncœur est très excitée. Quelle aubaine pour une vieille fille, n'est-ce pas ? Surtout pour une vieille fille qui collectionne les articles de journaux sur un certain commissaire. Cigarette ? J'oubliais, vous fumez la pipe. Vous pouvez l'allumer, cela ne me dérange pas, vous savez.
Je vous remercie. Vous ne travaillez pas, madame Martin ?
Il me serait difficile de travailler, de m'occuper du ménage et de la petite par surcroît, même quand elle va à l'école. D'ailleurs, mon mari ne permet pas que je travaille.
Et avant votre mariage ?
Il fallait que je gagne ma vie. Vous ne voulez pas vous asseoir ?
Et vous étiez dactylo ?
Je l'ai été.
Longtemps ?
Assez longtemps.
Vous l'étiez encore quand vous avez rencontré Jean Martin ? Vous m'excuserez de vous poser ces questions.
C'est votre métier.
Vous êtes marié il y a 5 ans, et où travailliez-vous à cette époque ? Un instant, puis-je vous demander votre âge ?
33 ans. J'avais donc 28 ans et je travaillais chez Monsieur Lorilleux au Palais Royal.
Comme secrétaire ?
Monsieur Lorilleux tenait un commerce de souvenirs et de monnaies anciennes. Vous connaissez ces vieux magasins du Palais Royal ? J'étais à la fois secrétaire, vendeuse, comptable. Et je tenais le magasin quand il s'absentait.
Il était marié ?
Et père de 3 enfants.
Vous l'avez quitté pour épouser Martin ?
Pas exactement. Jean ne gagnait pas trop largement sa vie et j'avais une bonne place. Les premiers mois, je l'ai gardée. Ensuite, il s'est passé une chose simple et inattendue. Lorilleux habitait rue Mazarine. Il venait au magasin à pied chaque matin et arrivait à peu près un quart d'heure avant moi, de sorte qu'il avait terminé de dépouiller le courrier lorsque j'entrais. Un matin, j'ai trouvé la porte du magasin fermée. J'ai attendu, croyant M. Lorilleux en retard. À 9h30, je me suis inquiétée.
Il était mort ?
Non, non. J'ai téléphoné à sa femme de la ganterie voisine. Il avait quitté l'appartement à 8h, comme d'habitude. J'ai passé la matinée à attendre. Sa femme est venue me rejoindre. Et nous nous sommes rendus ensemble au commissariat de police. On ne l'a jamais revu et on n'a jamais reçu de ses nouvelles. Oh.
C'était combien de temps après votre mariage ?
4 mois.
Votre mari voyageait déjà dans le sud-ouest ?
Il avait la même tournée qu'à présent.
Et il se trouvait à Paris au moment de la disparition de votre patron ?
Non, je ne crois pas.
La police n'a pas examiné les locaux ?
Tout était en ordre, exactement comme la veille au soir. Rien n'avait disparu.
Savez-vous ce qu'est devenue Madame Lorilleux ?
Elle tient une petite mercerie non loin d'ici, rue du Pas de la Mule.
Vous êtes resté en relation avec elle ?
Je suis entrée dans son magasin par hasard.
Il y a combien de temps de cela ?
Oh, je ne sais pas, environ 6 mois.
Quel genre d'homme était Lorilleux ?
Vous voulez dire physiquement ?
Oui, physiquement d'abord.
Il était grand, plus grand que vous, et encore plus large. C'était un gros mou, vous voyez ce que je veux dire. Pas très soigné de sa personne.
Quel âge ?
La cinquantaine, je ne sais pas, au juste. Il ne parlait pas beaucoup, c'était plutôt un triste. Il passait la plus grande partie de sa journée dans le bureau du fond.
Pas d'aventure féminine ?
Pas que je sache.
Il ne vous faisait pas la cour ?
Non. C'est tout ce que vous voulez savoir ?
Je vous ferai remarquer, Madame Martin, que c'est vous qui êtes venue me chercher.
Parce que cette vieille folle a sauté sur l'occasion de vous voir de plus près.
Vous n'aimez pas, mademoiselle, donc...
Oh, je n'aime pas les gens qui se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Or, sous prétexte de m'aider, elle est censée se fourrer chez moi. Je me demande si, quand je suis pas là, elle ne s'amuse pas à fouiller mes tiroirs.
Vous la supportez, cependant.
Le moyen de faire autrement. Mon mari l'aime bien parce que lorsqu'il était encore célibataire, il a eu une pleurésie et c'est elle qui est venue le soigner. Et Colette la réclame sans cesse, surtout depuis qu'elle est au lit. Ah, vous me croirez si vous voulez, je fais tout ce que je peux pour la petite. Je la traite comme je traiterais ma fille.
Et puis-je vous demander où vous êtes allée ce matin ?
Faire mon marché, rue du Chemin Vert et rue Amelot.
Sans indiscrétion, qu'avez-vous acheté ?
Voyez-vous-même.
3 boîtes de sardines, jambon, beurre, pommes de terre et une laitue.
Vous avez d'autres questions à me poser ?
Le nom de votre agent d'assurance.
Mon agent ?
D'assurance, oui. Celui qui est venu vous voir.
Oh, pardon, j'avais oublié. C'est parce que vous avez parlé de mon agent, comme si j'étais réellement en affaire avec lui. C'est Colette qui vous a raconté ça ? Il est venu quelqu'un, en effet, par deux fois. De ces gens qui frappent à toutes les portes et dont on a toutes les peines du monde à se débarrasser. J'ai cru d'abord qu'il vendait des aspirateurs électriques. Il s'agissait d'assurance sur la vie.
Il est resté longtemps chez vous ?
Le temps de le mettre à la porte.
Quelle compagnie représentait-il ?
Je ne sais plus. Un nom avec le mot mutuel.
Ouais. Il est revenu à la charge ?
C'est exact.
À quelle heure Colette est-elle censée s'endormir ?
J'étais à la lumière à 7h30. Mais il lui arrive de se raconter des histoires à mi-voix pendant un bon moment.
Ouais. Oui, la seconde fois, l'agent d'assurance est donc venu vous voir après 7h30 du soir.
Oui. Oui, c'est possible. J'étais en effet en train de laver ma vaisselle.
Et vous l'avez laissé entrer ?
Il avait le pied dans l'entrebâillement de la porte.
Il a sollicité d'autres locataires de la maison ?
Je n'en sais rien. Parce qu'une petite fille s'est imaginée voir le Père Noël il y a une demi-heure que vous me questionnez comme une criminelle. Si mon mari était ici...
Au fait, votre mari est-il assuré sur la vie ?
Je crois. Certainement.
Ouais. Et... Mon chapeau. Ah, le voici.
C'est tout ?
Et c'est tout, oui. Au cas où votre beau-frère viendrait, je vous serais reconnaissant de me faire prévenir ou de me l'envoyer. Au revoir, madame.
Au revoir, commissaire.
Mademoiselle Doncoeur, j'aimerais vous dire quelques mots chez vous.
Oh, avec plaisir, monsieur le commissaire.
Au revoir, Colette.
monsieur le commissaire. J'espère qu'il n'y a pas trop de désordre. Oh, si vous voulez vous asseoir.
Non, merci. Il y a longtemps que vous vivez dans la maison, mademoiselle Doncoeur?
25 ans, monsieur le commissaire. J'en suis une des plus anciennes locataires. Et je me souviens quand je me suis installée ici, vous habitiez déjà en face. Et vous portiez de longues moustaches.
Oui. Qui a occupé le logement voisin avant que Martin s'y installe?
Un ingénieur des ponts et chaussées. Il vivait avec sa femme et sa fille, qui étaient sourdes et muettes. C'était bien triste. Ils se sont installés dans le Poitou.
Un agent d'assurance vous a-t-il ennuyé ces derniers temps?
Ces temps-ci, non. Oh, il y a au moins 2 ans. Ah.
Vous n'aimez pas Madame Martin?
Pourquoi? Enfin, mon Dieu, si j'avais un fils, je ne serais pas contente de l'avoir pour belle-fille. Ah. Surtout que M. Martin est tellement gentil.
Oh. Il n'est pas heureux avec elle?
Oh, je ne dis pas ça. Je n'ai rien à lui reprocher. Elle a son genre, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. Mmh. Vous y connaissez mieux que moi. Tiens, je parierais qu'elle n'a jamais pleuré de sa vie. Oh, elle élève la petite convenablement, proprement, c'est vrai. Mais elle ne lui dira jamais un mot tendre. Je suis sûre qu'elle lui a dit que le Père Noël n'existait pas. Heureusement, Colette ne la croit pas.
Ouais. Elle ne l'aime pas non plus?
Elle lui obéit. Elle s'efforce de lui faire plaisir. Elle est aussi heureuse quand on la laisse seule.
Madame Martin sort beaucoup?
Assez peu, juste pour des courses. Mais on n'a pas de reproche à lui faire. Et je ne sais comment vous dire. On sent qu'elle mène sa vie à elle, vous comprenez? Elle ne s'occupe pas des autres. Elle ne parle jamais d'elle-même non plus. Elle est correcte. Oh, toujours correcte. Trop correcte. C'est tout juste si elle dit vaguement bonjour aux gens quand elle les croise dans l'escalier. En somme, si on la connaît un peu, c'est depuis Colette. Parce qu'on s'intéresse toujours davantage à un enfant.
Oui. Il vous est arrivé de rencontrer son beau-frère?
Dans le corridor. Je ne lui ai jamais parlé. Il passe en baissant la tête, comme honteux. On a toujours l'impression qu'il a dormi tout habillé. Je ne crois pas que ce soit lui, Monsieur Maigret. Ce n'est pas l'homme à faire ça. Ou alors, il aurait fallu qu'il soit ivre.
Tu sais, Maigret, je t'ai vu traverser le boulevard en revenant chez nous. Tu as tiré la langue pour attraper des flocons de neige.
Et toi, Madame Maigret, je t'ai vu me surveiller derrière ton rideau.
Je ne te surveillais pas, je te guettais, à cause de mon soufflet. Ah, ose dire qu'il n'était pas bon, mon petit repas de Noël.
Succulent. Il me laisse un peu alourdi, soit dit sans reproche.
Déguste le café de ma nouvelle cafetière.
Attends une seconde, j'allume ma pipe.
Ah, dommage que Colette ne soit pas notre invitée.
Ah, ça, je doute qu'elles aient fait bonbons avec des sardines et du jambon.
Je pourrais peut-être lui porter une petite douceur.
J'aime bien ma bonne vieille salamandre, avec ses petites flammes régulières qui lèchent les micas. Et au moins 10 poils semblables dans la maison. 10 salles à manger qui ont la même odeur de Noël, avec sa vie paresseuse en sourdine, du vin sur la table, des gâteaux, le carafon de liqueur qu'on va prendre dans le buffet.
Appel discret à la prunelle.
Et quelque chose m'a frappé quand je suis entré chez Madame Martin. Quelque chose dans l'atmosphère, dans l'arrangement des meubles, et même dans l'odeur. Un appartement de célibataire, malgré la présence de Lorraine Martin depuis déjà 5 ans.
Et la chambre à coucher?
Oh, semblable aux autres pièces, sans coquetterie, sans féminité. La penderie est strictement rangée, ses vêtements sont des costumes tailleurs, des robes très sobres. Je n'ai pas osé ouvrir les tiroirs, mais je suis sûr qu'ils ne contiennent pas de colifichets, de ces petits riens que les femmes ont coutume d'amasser.
La gamine ne peut pas être heureuse avec cette femme-là. Et le plancher? Le Père Noël de Colette, a-t-il vraiment troué le plancher?
L'endroit qu'elle m'a désigné, de là du parquet, ont effectivement été soulevés. Je n'ai rien vu qu'une cavité poussiéreuse, légèrement humide, comme sous tous les planchers. Quelques éraflures indiquent qu'on s'est servi d'un ciseau à bois ou d'un instrument de ce genre. À la porte aussi, les mêmes traces de pesée. Du travail d'amateur, du travail facile au surplus. Madame Martin n'était pas là à mon arrivée. Entre l'heure de son départ indiquée par Mademoiselle Doncoeur et celui de son retour, elle a eu le temps d'aller beaucoup plus loin que la rue du Chemin Vert. Elle a dû monter l'escalier à la hâte, alors que rien ne l'y obligeait. Sinon, à réduire le plus possible son temps d'absence.
Et tu en déduis?
J'aimerais bien savoir où elle est allée réellement. Peut-être, ce qui me déroute à mon insu depuis ce matin, comment dire... Voilà, 9 fois sur 10, une enquête, une vraie, me plonge d'une heure à l'autre dans un milieu nouveau, me met aux prises avec des gens que je ne connais pas, ou peu, et j'ai tout à apprendre jusqu'aux moindres habitudes d'une classe sociale qui ne m'est pas familière. Là, c'est tout différent. Sans compter que je ne suis officiellement chargé de rien. Pour la première fois, un événement se passe dans un monde proche du mien, dans une maison qui pourrait être ma maison. Les Martins pourraient habiter sur notre palier.
Et c'est sans doute moi qui serais allé garder Colette pendant les absences de sa tante.
Tiens, ici, à l'étage au-dessus, il y a une vieille demoiselle qui, en plus gras et en plus pâle, est presque le portrait de Mademoiselle Doncoeur. Les cadres des photographies sont vraisemblablement les mêmes que ceux de nos parents. Et les deux agrandissements ont probablement été exécutés par la même agence de notre quartier. Il me semble que je manque de recul, que je ne vois pas les gens et les choses avec un œil assez frais, assez neuf.
Mais la concierge est sûre que personne n'a pu venir du dehors?
Elle n'en est plus si sûre. Elle a reçu des amis jusqu'à minuit et demi, après elle s'est couchée, et il y a eu quantité d'allées et venues, comme toutes les nuits de réveillon. Il fait tellement sombre dans sa loge qu'il faut garder la lampe allumée toute la journée.
Crois-tu qu'il se passera quelque chose?
Là est toute la question. Madame Martin n'est pas venue me voir spontanément, mais la main forcée par Mademoiselle Doncoeur. Si Lorraine s'était levée plus tôt, si elle avait été la première à entendre l'histoire du Père Noël, n'aurait-elle pas gardé le silence et ordonné à la fillette d'Austère? Ensuite, elle a profité de la première occasion pour sortir, bien qu'il y eût suffisamment de provisions. Et distraite, elle a même acheté du beurre alors qu'il en restait une demi-livre dans le garde-manger.
Pourquoi as-tu demandé à Lucas la liste des prisonniers relaxés récemment?
Une idée en l'air. Quelqu'un ayant habité l'appartement ou celui d'en face ou seulement la chambre aurait pu y cacher le produit d'un vol ou d'un crime avant de se faire prendre. Libéré, il voulait rentrer en possession de son magot. L'immobilisation de Colette interdisait l'entrée de la chambre nuit et jour. Excuse-moi une minute, je dois appeler Lucas.
Jouer le Père Noël pour s'y introduire à peu près sans danger, ça n'était pas si bête.
Allô, Lucas?
Ah oui, patron, bonjour. Oui. J'ai la liste des prisonniers. Hein. Aucun n'a habité à un moment quelconque boulevard Richard Lenoir. Vous voulez que j'étudie chaque cas séparément?
Non, c'est inutile. J'ai provisoirement abandonné cette hypothèse. Bon. Tu as des nouvelles de Paul Martin?
Oui, il est connu dans 4 ou 5 commissariats au moins, entre la Bastille et le Boulmiche.
Tu sais ce qu'il a fait cette nuit?
Oui, il est allé manger au bord de la péniche de l'Armée du Salut. On leur a servi un souper de gala. À partir de 11h du soir, il a ouvert les portières devant une boîte de nuit au quartier latin. Il a dû recueillir assez d'argent pour se pinter, car à 4h du matin, on l'a ramassé ivre-mort à 100 mètres de la place Maubert. Oui, on l'a emmené au poste. Il l'a quitté à 11h ce matin. On m'a promis de l'amener dès qu'on mettra la main sur lui, quoi.
Bergerac?
Jean Martin prend le premier train de l'après-midi. Ah, votre coup de téléphone de ce matin l'inquiète.
Il n'en a reçu qu'un?
Ce matin, oui. On l'avait appelé hier au soir, au moment où il dînait à la table d'hôte. La caissière qui a pris la communication affirme que c'est une voix d'homme. Une fois rendu à la cabine, Martin avait plus personne au bout du fil. Ah, ça lui a gâché sa soirée, mais enfin, ça l'a pas empêché de faire la nouba dans je ne sais quelle boîte de la ville avec d'autres voyageurs de commerce jusqu'à 3h du matin. Mais sans indiscrétion, patron, il y a eu un crime dans votre quartier?
Non, jusqu'à présent, ça n'est qu'une histoire de Père Noël et de poupée. Ouais. Ah, un moment. Procure-toi l'adresse du directeur des montres Genève, avenue de l'Opéra. Hein? Même un jour de fête, ça doit se trouver.
Patron, on m'amène Paul Martin, là. Quoi? Oui, une seconde, patron. Oui, voilà, patron, il pleure comme un veau parce qu'il croit que quelque chose est arrivé à sa fille.
Tu as quelqu'un pour l'accompagner chez moi?
Torrance vient d'arriver, il ne demandera pas mieux que de prendre l'air sans avoir la gueule de bois de Martin. Il a réveillonné dur, lui aussi. Vous n'avez plus besoin de moi, là, patron?
Si. Mets-toi en rapport avec le commissariat du Palais Royal.
Oui.
Voici 5 ans environ, un certain Lorilleux, qui tenait une boutique de bijouterie de vieille monnaie, a disparu sans laisser de traces. J'aimerais avoir tous les détails possibles.
Bien, patron.
Oh, dans le fond, je serais bien tenté de ne plus penser à cette histoire saugrenue. Et si nous allions au cinéma tout à l'heure?
Non, je te connais. Tu brûles d'envie de savoir le fin mot de cette histoire.
Et toi donc, Agatha Christie?
Moi, j'ai mon tricot à terminer. Dis-moi, de quelle couleur sont ses yeux?
De qui? Ah, Colette.
Oh, il n'y a que la petite fille qui m'intéresse.
Bah, ma foi, j'aurais de la peine à le dire. Elle a les cheveux blonds.
Alors, ils sont bleus.
Oui, peut-être. Enfin, très clair, en tout cas. Et particulièrement calme.
Parce qu'elle ne regarde pas les choses comme une enfant. Est-ce qu'elle a ri?
Elle n'en a pas eu l'occasion.
Une vraie enfant trouve toujours l'occasion de rire. Il suffit qu'elle se sente en confiance, qu'on lui laisse des pensées de son âge. Je n'aime pas cette femme-là.
Allô, oui?
Patron?
Oui?
Le représentant général en France des Montres Genève s'appelle Arthur Godefroy, citoyen suisse. Il habite Saint-Cloud, je me suis assuré qu'il était chez lui. Alors notez, Val d'Or, 88, 45.
Merci.
Enfin, tout ce que tu voudras, moi, je n'aime pas cette femme-là.
Allô? Allô, ici commissaire Maigret. Pourrais-je parler à monsieur Arthur
Godefroy? Je suis monsieur Arthur Godefroy, en personne, commissaire. Et que se passe-t-il de si urgent?
Non, rien de grave, rassurez-vous tout de suite. Non, excusez-moi de vous déranger en ce jour de Noël. Un simple renseignement au sujet de monsieur Jean Martin, votre représentant.
Oh, un garçon tellement dévoué et capable que je compte l'an prochain, c'est-à-dire dans 2 semaines, le garder avec moi à Paris en qualité de sous-directeur. Vous avez une raison grave pour vous occuper de lui?
Non, ces jours derniers, quelqu'un s'est-il informé auprès de votre bureau sur les déplacements de monsieur Jean Martin?
Ah, certainement. Hier matin, quelqu'un a appelé le bureau et a demandé à me parler personnellement. On a dû dire un nom, mais je l'ai oublié. J'étais occupé à cause des fêtes. On voulait savoir où on pouvait toucher Jean-Martin pour une communication urgente. J'ai vu aucune raison de ne pas répondre qu'il était à Bergerac, probablement à l'hôtel de Bordeaux.
On ne vous a rien demandé d'autre?
Ah non, on a raccroché tout de suite. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien de mauvais dans tout ceci?
Non, absolument pas, non. La police n'a rien à reprocher à monsieur Martin. Nous vous tiendrons au courant. Je vous remercie, monsieur. Bon Noël!
Bon Noël!
L'homme qui s'est renseigné au bureau des Montres Genève pour savoir où était Jean Martin est sans doute le même homme qui a téléphoné à Bergerac, afin de s'assurer qu'il ne pourrait pas se trouver boulevard Richard Lenoir la nuit de Noël.
Et cet homme-là serait entré dans la maison?
Eh, plus que probablement. Et je ne pense pas qu'il s'agisse de son frère, Paul. Il pouvait, sans en avoir l'air, se renseigner auprès de sa belle-sœur.
De maille à l'envers, de maille à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille...
Qu'est-ce que tu marmonnes, toi?
Je vérifie mes mailles, c'est là que je me suis trompée. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a pu trouver sous le parquet?
A-t-on seulement trouvé quelque chose? Si le visiteur a fait chou blanc, son problème reste aussi urgent qu'il l'était hier. Il agira donc à nouveau.
Mais comment?
Ah, ça, j'en sais rien.
Maigret, tu n'as pas peur pour la petite? Crois-tu qu'elle soit en sécurité avec cette femme-là?
Je le saurais si je savais où Madame Martin est allée ce matin. Oh, nom d'une pipe!
Je me demande quelles complications il a pu y avoir pour que cette petite reste si longtemps la jambe dans le plâtre.
Ah, mais ça n'est pas si bête ce que tu dis là. Il y a des chances pour qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Et le terrain sera libre. Ah... allô, Lucas?
Oui.
Oui, c'est encore moi. Cette fois, je voudrais que tu t'occupes des taxis. Il ne devait pas y avoir tellement de voitures ce matin. Entre 9h et 10h, un taxi est-il chargé une cliente dans les environs du boulevard Richard Lenoir? Elle est... Attends, ça doit être Paul Martin. Oui, j'entends la voix de Torrance. Bon, elle est blonde, la trentaine, mince, elle portait un tailleur gris, un chapeau beige et un sac à provisions.
Comment, le sac à provisions?
Ah oui, un sac à provisions, oui, rouge écossais.
Bon, c'est noté. Bon, quant à l'autre, là, Lorilleux, un collègue du quartier du Palais Royal est en train d'éplucher les archives. Vous aurez le renseignement dans un moment. Hein.
Merci, Lucas.
Bonjour, patron. Bon Noël.
Ah, toi aussi. Entrez, monsieur Martin. Une petite prunelle?
À demain, patron.
Oh, sans prendre un petit verre?
Oh, sans façon, patron. J'en suis au bicarbonate.
À ta guise. À demain. À votre santé, monsieur Martin. Ne soyez pas inquiet. Oh, elle est fameuse, hein, du pays de ma femme. Je vous demande pardon de vous avoir fait venir jusqu'ici. Mais vous serez plus prêt pour aller voir votre fille.
Il lui est rien arrivé?
Non, je l'ai vue ce matin. Elle jouait gentiment avec sa nouvelle poupée.
Alors, à votre santé.
Oui. Si vous, monsieur Martin, détendez-vous. Dites-vous que je connais votre histoire.
Je voulais aller la voir ce matin. Je m'étais juré de me coucher et de me lever de bonne heure. Ça se passe toujours de la même façon. Je jure que je ne prendrai qu'un verre, juste de quoi me remonter, et puis...
Vous n'avez qu'un frère, monsieur Martin ?
Jean, oui, et qui est de 6 ans, mon cadet. Avec ma femme et ma fille, c'est tout ce que j'aimais au monde.
Vous n'aimez pas votre belle-sœur ?
Oh, j'ai pas de mal à dire de Lorraine.
Vous lui avez confié votre enfant, n'est-ce pas ?
Quand ma femme est morte et que j'ai commencé à perdre pied... Alors...
Oui, oui, je comprends, oui. Votre fille est heureuse ?
Oh, je crois, oui. Elle se plaint jamais.
Il ne vous est jamais arrivé de rencontrer d'homme chez votre belle-sœur ?
Ah non, ça, je pense pas qu'il y ait rien à lui reprocher de ce côté-là.
Savez-vous où votre frère l'a rencontré ?
Dans un petit restaurant, la rue de Beaujolais, où il prenait ses repas. Quand il était à Paris, entre deux tournées, près de son bureau et du magasin où Lorraine travaillait.
Vous avez été le témoin de votre frère ?
Oui. Quant à Lorraine, ce fut la patronne de son meublé. Elle n'a aucune famille à Paris. Elle était déjà orpheline à cette époque. Mais personne ne m'a encore expliqué ce...
Oui, un homme s'est introduit cette nuit sous un déguisement de Père Noël dans la chambre de Colette.
Il lui a rien fait.
Non, non, tranquillisez-vous. Il lui a donné une poupée.
Ah. Vous croyez que je suis convenable pour aller la voir ?
Vous irez dans un moment. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous raser ici. Et est-ce que votre frère est homme à cacher quoi que ce soit sous un plancher ?
Oh, lui, jamais de la vie.
Même s'il avait quelque chose à cacher à sa femme ?
Il ne lui cache rien. Oh, vous ne le connaissez pas. Quand il revient, il lui rend des comptes comme à un patron. Et elle sait exactement combien il a d'argent en poche.
Elle est jalouse ?
Pas. Elle serait plutôt intéressée. Ma femme ne l'aimait pas. Elle disait qu'elle se tenait toujours sur la défensive. Et d'après elle, elle s'est jetée à la tête de Jean à cause de sa situation, de ses meubles, de son avenir.
Elle était pauvre.
Elle ne parle jamais de sa famille.
Selon vous, était-elle la maîtresse de son ancien patron ? Votre femme devait avoir son idée là-dessus aussi, n'est-ce pas ?
Mais comment le savez-vous ? Ma femme prétendait qu'ils avaient l'air d'un faux ménage et que c'était pratique pour Lorraine d'épouser un homme qui était la plupart du temps en voyage. Peut-être ai-je mal fait de lui laisser Colette. Parfois, je me le reproche. Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ?
Où habitait Lorraine ? Au fait, son nom de jeune fille ?
Boitel. Lorraine Boitel. Si je me souviens bien, dans un hôtel meublé au 4 de la rue Pernelle. Oui, c'est ça, près du boulevard Sébastopol. Un endroit convenable, malgré le quartier, fréquenté par des gens qui travaillent dans le coin. Je me rappelle qu'il y avait entre autres des petites actrices du Châtelet.
Ah, oh, monsieur, finissez votre verre.
Oui, merci.
C'est Noël. Mmh. Vous voulez vous raser ?
Oui.
Venez avec moi.
Ah, j'ai honte. J'ai honte, et pourtant, maintenant que je suis en face de chez ma fille...
Je vais vous donner une brosse à habits.
Merci.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Il se rase. Et la gentillesse de lui faire un café très fort, à cause de sa fille et de son haleine. Allô, Lucas ?
Oui, patron, c'est moi.
Je ne te fais pas chômer pour ta journée de Noël, Tu es indispensable au bureau ?
Non, si Torrance reste ici. Ah, j'ai des renseignements.
Bon, attends, dans un instant. Tu vas filer 4 rue Pernelle. Il y a un petit hôtel meublé, il doit encore exister. Je ne sais pas si les propriétés ont changé depuis 5 ans. Peut-être dénicheras-tu quelqu'un qui ait travaillé à cette époque. Je voudrais tous les renseignements possibles sur Lorraine Boitel.
Lorraine Boitel, oui.
La patronne du meublé a été témoin à son mariage avec Jean Martin. Lorraine Boitel travaillait à cette époque pour Lorilleux.
Oui.
Tu vois, celui du Palais Royal.
Ouais, je vois.
Bon, est-ce qu'il venait parfois la voir à son hôtel ? Alors fais vite, Qu'est-ce que tu avais à me dire ?
Justement, là, sur Lorilleux. Un drôle de type, On a fait une enquête lors de sa disparition. Rue Mazarine, il passait pour un commerçant paisible qui élevait parfaitement ses 3 enfants. Dans sa boutique du Palais Royal, par contre, il se passait des choses curieuses.
Tiens.
Il vendait pas seulement des monnaies anciennes, mais également des livres et des gravures obscènes.
Ah !
Et même, il est était question d'un large divan recouvert de reps rouges, dans le bureau du fond. Faute de preuves, on n'a pas insisté, d'autant plus qu'on ne tenait pas à embêter la clientèle, composée en grande partie de gens plus ou moins importants.
Ouais, et rien sur Lorraine Boitel?
On n'en parle pas beaucoup dans le rapport. Elle était déjà mariée au moment de la disparition de Lorilleux. D'après la brigade financière, Lorilleux avait été signalé vers cette époque comme franchissant fréquemment la frontière suisse. Oui, c'était au moment où le trafic de l'or battait son plein. On l'a tenu à l'œil. Il a été fouillé deux ou trois fois à la frontière, mais sans qu'on puisse rien découvrir, hélas.
Bon, alors, file rue Pernel, hein, mon vieux Lucas. C'est plus que jamais urgent.
D'accord.
Roger, je suis confus. Je ne sais comment vous remercier.
Vous allez rendre visite à votre fille, n'est-ce pas?
Oui.
Je ne sais pas combien de temps vous restez d'habitude auprès d'elle, ni comment vous allez vous y prendre, mais ne la quittez pas, jusqu'à ce que j'aille vous retrouver.
Ah. Voilà. Voilà votre café, monsieur Martin.
Merci. Mais je peux pourtant pas y passer la nuit.
Oui, passez-y la nuit s'il le faut. Arrangez-vous. Hein.
Y a du danger?
N'en sais rien, mais votre place est près de Colette.
Il ne peut pas aller voir sa fille, les mains vides. Un jour de Noël.
Ah, oui, mais il n'y a pas de poupée dans la maison.
Tiens, j'ai un dé en or qui traîne depuis des années dans ma boîte de couture et qui ne sert à rien. Donne-le-lui.
Ah bon.
Ça fait toujours plaisir à une petite fille.
Monsieur Martin.
Oui.
Tenez, c'est pour la petite. Surtout, ne lui dites pas d'où il vient. Quand tu auras fini de me faire jouer les Pères Noël.
Je parie que ça lui fera plaisir autant que la poupée. Parce que c'est un objet de grande personne, tu comprends? Tu crois qu'il guérira?
Oh, j'en doute. Il devra entrer dans une clinique spécialisée.
Mais s'il arrivait quelque chose à Madame Martin...
Eh bien?
Rien. Je pense à la petite. Je me demande ce qu'elle deviendrait. Je l'imagine là-bas, derrière cette fenêtre.
Un brouillard épais, jaunâtre, vient de tomber tout à coup, ce qui est assez rare. Hein. Dans toutes les maisons, les lampes s'allument.
Chez toi aussi, Maigret, tu ne t'en es même pas aperçu. Les fenêtres ont l'air de fanaux lointains. On s'attend comme au bord de la mer à entendre mugir la sirène de brume.
Ah, mon cher commissaire Maigret, voilà un conte de Noël peu ordinaire, j'en conviens, et qui ravira nos lecteurs.
Bon, Jérémy, c'est surtout un joli conte de Noël pour Madame Maigret. Voyez-vous, l'idéal pour un commissaire de police, c'est d'être marié avec une femme capricorne.
Hein?
Oui, les capricornes ne jettent jamais rien. Eh bien, des années plus tard, dans le tiroir où Madame Maigret fourre les moindres papiers qui traînent, j'ai retrouvé cette vieille enveloppe. Au dos de laquelle, machinalement, au cours de cette journée, j'avais résumé les événements. Ce n'est qu'à ce moment-là que quelque chose me frappa dans cette enquête, menée pratiquement de mon logement, et que je devais souvent par la suite citer en exemple. Alors qu'à l'époque, je n'y avais pas pris garde.
C'est vraiment la seule enquête que vous ayez menée en pantoufles et en robe de chambre, devant votre chère salamandre, en compagnie de Madame Maigret, dans une ambiance on ne peut plus familiale.
Ah, ça, Madame Maigret n'aurait pas détesté que toutes mes enquêtes se déroulent devant ma salamandre, et non auprès du vieux poêle de mon bureau du Quai des Orfèvres.
Eh bien, qu'est-ce qui a pu vous échapper? Vous m'intriguez.
Contrairement à ce qui se passe si souvent, il n'y eut dans cette affaire aucun hasard à proprement parler, aucun véritable coup de théâtre. Cette sorte de chance-là ne joua pas. Mais la chance n'en intervint pas moins, et même de façon constante, en ce sens que chaque renseignement vint à son heure par les moyens les plus simples, les plus naturels. Il arrive que des douzaines d'inspecteurs travaillent jour et nuit pour recueillir une information de second ordre. Par exemple, le patron de Jean Martin aurait pu fêter Noël dans sa Suisse natale. Quand Lucas débarqua à la maison...
Oh, j'adore Lucas. Oui, à tout point de vue, c'est votre réplique parfaite. De taille en moins.
Et il fume des pipes de deux tailles au-dessus. Je disais donc, quand Lucas arriva un peu après 4 heures, la peau tendue, le nez rouge et présentant au feu ses mains glacées, la même chose avait joué en sa faveur. Alors?
Ben voilà, patron. La tenancière du meublé de la rue Pernel est morte, il y a 2 ans. Dans un accident de métro. Alors je me trouvais devant un mur. Le personnel de ce genre de boîte change souvent. Un coup de peau, patron. Le tenancier actuel n'est autre que l'ancien gardien de nuit. Comme il a eu jadis des démêlés avec la police pour des histoires de mœurs, alors là, ça devenait facile de le faire parler. J'ai été surpris qu'il ait pu racheter le fonds du jour au lendemain, comme ça, mais il a fini par m'expliquer qu'il sert tout bêtement d'homme de paille pour un homme en vue qui place son argent dans ces sortes d'affaires, mais sans y être en nom, vous voyez.
Quel genre de boîte?
Correct en apparence, hein, propre, des chambres louées au mois, quelques-unes à la semaine, et au premier, une demi-douzaine louée à l'heure.
Ah ouais.
Il se souvient très bien de Lorraine, car elle a vécu plus de 3 ans dans la maison.
Elle recevait Lorieux?
Oui, en moyenne 2 ou 3 fois par mois, toujours avec des bagages. Il arrivait vers 1 heure du matin et repartait à 6 heures. Je me suis d'abord demandé ce que ça pouvait signifier. J'ai vérifié l'indicateur des chemins de fer, ça coïncidait avec les voyages qu'il effectuait en Suisse. Il prenait pour revenir le train qui arrive au milieu de la nuit et laissait croire à sa femme qu'il avait pris celui qui arrive à 6 heures du matin. Ouais. Oh, mais le tenancier a parfaitement identifié Lorieux sur la photo que je vais présenter.
Rien d'autre?
Ben non, rien, hein, sinon que Lorraine était chiche de pourboire et que malgré l'interdiction, elle cuisine le soir dans sa chambre sur un réchaud alcool. C'est dangereux, ça. Hein.
D'autres hommes?
Mais à part Lorieux, non. Une vie régulière, quoi.
En somme, commissaire Maigret, vous n'aviez plus qu'à patienter.
Effectivement, Lucas et moi, nous avons attendu. Sans fièvre, chacun au creux d'un fauteuil, dans des poses identiques, un verre de prunelle à portée de la main et la pipe aux dents. Oh, je ne devais pas eu beaucoup à insister pour que Madame Maigret et son tricot nous tiennent compagnie. Torrance courait les dépôts de taxi dans le brouillard. Or, il en fut pour les taxis comme il en avait été pour le reste. Parfois, on tombe tout de suite sur le taxi que l'on cherche, et d'autres fois, on est plusieurs jours sans aucune indication. Certains chauffeurs n'ont pas d'heure régulière et maraudent au petit bonheur. Peut-être le fait que ça se passait un jour de Noël rendait-il les choses plus faciles. Enfin, la circulation était moins active, le commerce à peine existant. En outre, les gens ont tendance à se souvenir avec plus de netteté des événements qui se déroulent un jour différent des autres. Or, avant 5 heures, Torrance téléphonait de Saint-Ouen.
J'ai trouvé un des taxis, patron.
Pourquoi un? Il y en a eu plusieurs?
J'ai tout lieu de supposer. Il a chargé la jeune dame au coin du boulevard Richard Lenoir et du boulevard Voltaire. Puis il l'a conduite rue de Dunkerque en face de la gare du Nord. Elle n'a pas gardé le taxi.
Elle est entrée dans la gare?
Non, pas tout de suite. Elle s'est arrêtée devant une maison d'articles de voyage ouverte dimanche et fête. Puis le chauffeur ne s'en est plus occupé, quoi.
Mais où est-il maintenant?
Ici. Il vient de rentrer.
Bon, veux-tu me l'envoyer? Qu'il prenne sa voiture ou une autre, mais qu'il vienne tout de suite. D'accord. Quant à toi, il te reste à trouver le chauffeur qui l'a ramené.
Compris. Le temps d'avaler un café à poser parce qu'il fait vraiment froid.
Voilà. Vous permettez, patron, là, d'après l'annuaire, il n'y a qu'un seul marchand de valises en face de la gare. Je suppose que c'est le bon. 67, 17. Voilà. Allô, oui, bonjour monsieur, ne quittez pas s'il vous plaît. Tenez, patron.
Merci. Allô, ici commissaire Maigret, police judiciaire. Vous avez une cliente ce matin, un peu avant 10 heures, une jeune femme blonde en tailleur gris, qui tenait à la main un sac à provisions, écossais rouge, vous vous en souvenez?
Oui, c'est moi-même qui l'ai servi. Elle m'a expliqué devoir partir précipitamment pour Cambrai, voir sa soeur malade. Elle voulait une valise bon marché, en fibre, comme nous en avons des piles, des deux côtés de la porte. Elle a choisi le modèle moyen et s'est rendue dans le bar voisin. Je me trouvais sur mon seuil un peu plus tard, quand je l'ai vue traverser la rue en direction de la gare, et la valise à la main.
Vous êtes seul dans votre magasin?
J'ai un commis avec moi. Nous fermons à 19h.
Bon, alors vous pouvez vous absenter pendant une demi-heure. Sautez dans un taxi, gardez-le, nous paierons la course. Hein, et venez me voir chez moi à l'adresse que voici. Boulevard Richard Lenoir, numéro 247.
Vu avec le marchand de valises, commissaire Maigret. Bien, maintenant, autour des chauffeurs de taxi.
Eh bien, d'après mes notes sur l'enveloppe, c'est à 5h50 que le chauffeur du premier taxi arriva. Un peu surpris, alors qu'il s'agissait de police, d'être reçu dans un appartement particulier, mais il m'a reconnu.
Oui, oui, et je parie qu'il regarda curieusement autour de lui, intéressé par le cadre dans lequel vivait le fameux commissaire Maigret.
Hein? Je lui signifiais mes instructions en l'envoyant au troisième chez Madame Martin.
Alors là, je comprends pas, patron.
Mon petit Lucas, c'est pourtant simple. Au premier témoin, elle commencera à s'inquiéter. Au second, si tout va bien, elle sera prise de panique. Et au troisième, enfin, pour autant que Torrance mette la main dessus... Oui, allô?
Oui, je crois que j'ai trouvé, patron. J'ai déniché un chauffeur qui a chargé une jeune personne répondant à la description à la gare du Nord. Elle s'est fait déposer au coin du boulevard Beaumarchais et de la rue du Chemin Vert.
Bon, expédie-le-moi.
Oui, mais c'est qu'il a quelques petits verres dans le
ramener.
Bah, bah, aucune importance. Écris-lui mon adresse sur un bout de papier, afin qu'il ne se perde pas en route. Où es-tu?
Au dépôt Barbès.
Passe par la gare du Nord, tu le présenteras à la consigne. Malheureusement, ce ne sera plus le même employé que ce matin. Ah, oui. Et vois s'il y a en dépôt une valise neuve en fibre, taille moyenne, qui ne doit pas être lourde et qui a été déposée entre 9h30 et 10h du matin. Note le numéro. On ne te la laissera pas emporter sans mandat, mais demande le nom et l'adresse de l'employé de service de ce matin. Hein?
Voilà. Oui, mais qu'est-ce que je fais ensuite?
Tu me téléphones.
Bon, eh bien moi, je vais préparer le dîner.
Quand on sonna à la porte, mon cher ami, il n'y avait pas un homme, mais deux sur le palier, qui se regardaient en chien de faïence. Le premier chauffeur qui revenait déjà de la maison d'en face, et le marchand de valises. Alors, vous l'avez reconnu?
Et non seulement je l'ai reconnu, mais elle m'a reconnu, elle aussi. Et elle est devenue pâle. Alors, sur votre recommandation, j'ai prétendu m'être trompé d'étage. J'ai compris qu'elle hésitait à m'acheter. Et j'ai préféré ne pas lui en laisser le temps. Et d'en bas, je l'ai aperçue à sa fenêtre. Elle sait probablement que je suis entré chez vous.
Et le marchand de valises, me direz-vous? Eh bien, il se montra moins malléable. Il essaya de se retrancher derrière le secret professionnel. Enfin, il accepta l'épreuve. Mais par précaution, j'envoyais Lucas sur ses talons, car elle aurait pu changer d'avis en route. Son témoignage corrobora celui du chauffeur. Seulement, ce marchand, probablement prospère, exigea lui une compensation pour son temps perdu. Eh oui, mon vieux Lucas, reste à attendre le troisième témoin. Enfin, c'est-à-dire le second chauffeur.
Tenez, voilà déjà quelques petits hors-d'œuvre en attendant.
Merci, madame Maigret.
Maigret, tu es sûr que le père de la petite est toujours en face?
Ben oui, pourquoi?
Ah, je ne sais pas. Je ne comprends pas exactement ce que tu mijotes. Je pense à la petite et j'ai un peu peur. Il y a longtemps que la nuit est tombée.
Le second chauffeur arriva à 6h20. À 6h35, il revenait l'œil égrillard de l'autre immeuble.
Eh ben, elle est encore mieux en négligé qu'en tailleur. Elle m'a forcé à entrer, puis elle m'a demandé qui c'est qui m'envoyait. Alors, comme je savais pas quoi lui répondre, j'ai répliqué que c'était le directeur des Folies Bergères. Et c'est plausible, vu son physique. Elle était furieuse. Ah, oh, un beau morceau de femme, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu ses jambes.
Ouais, bah, moi, pour l'instant, je sais que vous lorgnez surtout mon flacon de Brunel, hein. Allez, tenez.
Allez, merci.
Allez, à la nôtre. Et joyeux Noël.
Joyeux Noël, patron.
On ne parvint à s'en débarrasser qu'après lui avoir servi un second verre de Brunel.
Qu'est-ce que vous comptez faire, patron? Rarement je vous ai vu prendre autant de précautions, préparer votre coup avec autant de soin. Il ne s'agit que d'une femme bourgeoise, sûrement insignifiante. Vous croyez qu'elle se défendra encore?
Non, mais férocement. Et qui plus est, froidement.
Qu'est-ce que vous attendez?
Le coup de téléphone de Torrance.
Et vous l'avez reçu à son heure?
Comme une partition bien réglée. Oui, allô?
La valise est ici, patron. Elle doit être à peu près vide. Alors, comme prévu, ils veulent pas me la donner sans mandat. Quant à l'employé de garde ce matin, il habite la banlieue du côté de la Varenne-Saint-Hilaire.
Aïe, ah, ça y est, le grain de sable dans l'engrenage.
Non, non, minute, patron. Non, non, après sa journée, il joue du piston dans un balbuzette de la rue de Lappe.
Bon, tu pouvais pas le dire plus vite? Va me le chercher.
Je l'amène chez vous?
Non, 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 dans la maison d'en face, au troisième étage, chez madame Martin, j'y serai, hein. Tu viens, Lucas?
Oui, je viens.
Tu sors?
Bah, j'ai envie d'un bon demi à la pression.
De la bière par cette température?
Non, non, ne vous inquiétez pas, madame Maigret, la bière, nous la boirons près du poêle.
Et cette fois, je mets mon gros par-dessus.
Mais à quelle heure rentreras-tu dîner?
Oh, bah, comme d'habitude. Je suis pas loin, je suis en face.
Non, ça n'est pas plus rassurant. Oh, surtout, veille bien sur la petite, hein.
Encore vous? Avec du renfort?
Mon adjoint, l'inspecteur Lucas, l'inspecteur Torrance et monsieur. Mais nous serions aussi bien à l'intérieur. Entrez, messieurs.
Ne vous gênez pas. Il est...
19h30, oui, je sais. Je sais, je viens de noter sur cette enveloppe. À 19h30, Torrance débarque en compagnie du responsable de la consigne de la gare du Nord. Que voici. Inutile de vous présenter. Reconnaissez-vous, madame?
Et comment? C'est pas ordinaire, une dame si élégante, avec un sac à provisions écossais rouge. Même qu'elle y a glissé le reçu de la consigne au lieu de le ranger dans son sac à main.
Bon. Eh ben, pour ce soir, ce sera tout. Merci. Bon, Torrance, raccompagne monsieur.
Si je suis vraiment allée déposer un colis à la gare du Nord, vous devez retrouver le reçu.
Ah, bien entendu, il n'est plus dans le sac à provision. Mais ça n'est pas un obstacle insurmontable.
Non, 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 la course au trésor, ça nous connaît.
Vous ne trouvez pas que vous dépassez la mesure?
Et vous? Vous admettez une intrusion nocturne chez vous? Et au lieu de porter plainte...
Oh, pardon, demain je déposerai une plainte. Il s'agit d'un coup monté de toute pièce par la méchanceté d'une voisine. Oh, j'avais raison de m'en méfier ce matin quand elle a voulu m'entraîner de toute force chez vous. D'ailleurs, je me demande si vous avez le droit.
Ah, mais je n'ai aucun droit, c'est exact. Hormis celui de tirer au clair une effraction d'appartement. Et en conséquence, nous attendons le locataire des lieux.
À 10h du soir, nous en étions toujours au même point. Personne ne devait dormir dans l'immeuble. Sauf Colette qui avait fini par s'assoupir et au chevet de laquelle son père continuait à veiller dans l'obscurité. Lorraine Martin portait toujours son peignoir bleu pâle. Elle fumait cigarette sur cigarette. Et avec la fumée des pipes, ça formait un épais nuage qui s'étirait autour des lampes. Elle jetait souvent un regard anxieux au réveil matin sur la cheminée et pensait évidemment au retour de son mari, mais malgré son impatience... Aucune question ne la prenait en défaut.
Vous vous contentez de nier sur toute la ligne, vos allées et venues de la matinée. Et vous prétendez contre toute évidence n'avoir jamais vu les deux chauffeurs de taxi, ni le marchand de valises, ni l'employé.
Je suis encore libre de faire ce que je veux sans en rendre compte à qui que ce soit.
Ah, libre à vous de ne rien dire, de ne rien répondre. Votre mari arrivera à 11h17. Et peut-être serez-vous plus loquace en sa présence.
Il ne sait rien depuis que moi.
En sait-il autant que vous?
Il n'y a rien à savoir, je vous ai tout dit.
Ah? Même sur Lorieux? Oui, oui, je sais, c'est le seul point sur lequel vous ayez cédé, en reconnaissant que votre ancien patron vous avait rendu visite au meublé de la rue Pernelle, parce que vous avez tout de suite compris que tôt ou tard nous l'aurions découvert. Vous n'en soutenez pas moins qu'il n'y a jamais eu de rapport entre vous.
Il est venu deux ou trois fois, par hasard, au cours de la nuit. Oh, il faut que vous ayez vraiment l'esprit mal tourné pour imaginer Dieu sait quelle saleté. C'était des visites d'affaires. Parfaitement. Mmh. Il débarquait du train et il avait souvent des grosses sommes sur lui. Je vous ai déjà dit qu'il se livrait au trafic de l'or. Vous ne pouvez pas me poursuivre de ce fait.
Avait-il une grosse somme en sa possession quand il a disparu?
Je l'ignore.
Avouez que l'homme qui est venu la nuit dernière n'a rien trouvé sous le plancher parce que vous aviez changé de cachette.
Je ne sais même pas s'il y a jamais eu quelque chose sous le plancher.
À la suite de la visite de cette nuit, vous avez pensé à la consigne?
Je ne suis pas allée gare du Nord et il existe des milliers de femmes blondes à Paris qui répondent à ma description.
Qu'avez-vous fait du bulletin de consigne? Non. Bon. Eh ben, je crois savoir où nous le retrouverons.
Oh, vous êtes très malin.
Asseyez-vous devant cette table. Lucas, ton carnet et ton stylo. Voilà, écrivez votre nom et votre adresse. Oh, ça ne vaut pas la peine d'hésiter. Nous procéderons autrement. Voilà, cette nuit, toutes les lettres mises à la boîte dans le quartier seront examinées et je parie qu'il y en aura une que vous vous serez adressée à une poste restante quelconque. Lucas, va appeler Janvier et que des recherches soient faites en ce sens. Eh oui, c'est classique, voyez-vous, mon petit.
Avouez que vous me détestez.
Bah, j'avoue que je n'ai pas pour vous une sympathie débordante. Et j'ajouterai, si cela vous intéresse, que ce qui me choque le plus, ce n'est pas tant ce que vous avez pu faire que votre sang-froid. Ah, il m'en est passé beaucoup par les mains des hommes et des femmes. Voilà 3 heures que nous sommes face à face. Et l'on peut dire que depuis ce matin, vous vous sentez comme au bout du fil. Vous n'avez pas encore bronché. Votre mari va rentrer. Et vous allez essayer de vous poser en victime. Or, vous savez que fatalement, tôt ou tard, nous apprendrons la vérité.
Ça vous avancera à quoi? Je n'ai rien fait.
Eh ben alors, pourquoi mentir? Vous réfléchissez, hein? Vous pesez le pour et le contre.
Je ne dirai rien.
Oh, comme il vous plaira.
Vous comptez rester longtemps chez moi?
Ah, en tout cas jusqu'au retour de votre mari.
Vous lui parlerez des visites de Monsieur Lorieux à l'hôtel?
Si c'est indispensable.
Vous êtes un couche-là. J'en ne sais rien. N'est pour rien dans cette histoire.
Eh oui, il est malheureusement votre mari.
Patron, Janvier s'occupe de la lettre. Hein. J'ai rencontré Torrance en bas. Il m'a dit que l'homme était chez le marchand de vin, deux maisons plus loin que chez vous.
Quel homme ?
Celui qui est venu la nuit dernière. Lorilleux. Je suppose que vous attendiez à ce que, n'ayant rien trouvé, il revienne vous voir. Il ne reste plus que 20 minutes hein, pour que le train de Bergerac entre en gare. Lorilleux aimerait bien récupérer son bien.
Ce n'est pas son bien.
Ben, mettons ce qu'il considère à tort ou à raison comme son bien. Ah, il doit être à la côte, cet homme. Il est venu deux fois sans obtenir ce qu'il désirait, le soi-disant agent d'assurance. Il est revenu en Père Noël. Mais il va revenir à nouveau. Il se montrera plus loquace que vous. Les hommes, contrairement à ce qu'on pense, parlent plus facilement que les femmes. Et croyez-vous qu'il soit armé ?
Je n'en sais rien.
Bon, à mon avis, il l'est. Je ne sais pas ce que vous lui avez raconté, mais il finit par la trouver mauvaise. Rien de plus féroce que ces moules-là quand ils s'y mettent.
Taisez-vous !
Il est 10h38. Ah non. Non, non. Eh, 10h39.
Qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Est-ce de l'argent que contient la valise placée à la consigne ?
Des billets de banque, un peu moins 1 million.
Que vous avez transporté ce matin dans votre sac à provisions. Vous achetez la valise route Dunkerque. Au bar à côté, vous transférez l'argent du sac dans la valise et au retour, afin de justifier le sac à provisions, vous faites quelques achats. Cette somme appartient-elle à Lorilleux ?
Pas plus à Lorilleux qu'à moi.
À l'un de ses clients ?
Julien Boissy, qui venait souvent au magasin. Il est mort.
Tiens, comment ?
Il a été tué.
Par qui ?
Par Monsieur Lorilleux.
Pourquoi ?
Parce que je lui avais laissé croire que s'il disposait de la forte somme, je partirais avec lui.
Vous étiez déjà marié ?
Oui.
Vous n'aimez pas votre mari ?
Je déteste la médiocrité. J'ai été pauvre toute ma vie. Je n'ai entendu parler que d'argent, de la nécessité de privation. Toute ma vie, j'ai vu compter autour de moi et j'ai dû compter.
Vous auriez suivi Lorilleux ?
Je ne sais pas. Peut-être pendant un certain temps.
Le temps de lui prendre son argent.
Je vous hais !
Comment le crime a-t-il été commis ?
Julien Boissy était un habitué du magasin.
Ah, amateur de livres érotiques.
Oh, c'était un vicieux, comme les autres, comme Lorilleux, comme vous probablement. Il était veuf et vivait seul à l'hôtel. Mais il était très riche, très avare. Tous les riches sont avares.
Pourtant, vous n'êtes pas riche.
Je le serais devenu.
Comment est mort Julien Boissy ?
Il avait peur des dévaluations et voulait de l'or. Un après-midi, il a apporté une somme importante au magasin. Je n'y étais pas. J'étais en course.
Exprès ?
Jamais de la vie.
Vous ne vous doutiez pas de ce qui allait se passer ?
N'essayez pas de me faire dire ça. Vous perdriez votre temps. Quand je suis rentrée, M. Lorilleux était en train d'emballer le corps dans une caisse qu'il avait achetée tout exprès.
Ah, et vous l'avez fait chanter ?
Non.
Mais comment expliquez-vous qu'il ait disparu après vous avoir remis l'argent ?
Je lui ai fait peur.
En le menaçant de le dénoncer ?
Même pas. Je lui ai fait croire qu'un inspecteur de police m'avait arrêté dans la rue, en sortant du magasin, et m'avait posé des questions. Il était donc plus prudent de mettre l'argent en sûreté pour quelque temps. Je lui ai parlé d'une lame de parquet dans mon logement, qu'il était facile de soulever et de remettre en place. Je lui ai remis une petite partie de l'argent, lui promettant de le rejoindre à Bruxelles, dès qu'il n'y aurait plus de danger.
Qu'a-t-il fait du corps de Boissy ?
Il a transporté la caisse en taxi dans une petite maison qu'il possédait au bord de la Marne. Personne ne s'est inquiété de la disparition de Boissy.
Et pendant 5 ans, vous avez pu tenir Lorilleux éloigné.
Je l'ai même envoyé en Amérique du Sud. Je lui écrivais, post-restante, qu'il était recherché et que j'étais sans cesse interrogée par la police. Pour le calmer, je lui envoyais un peu d'argent. Il est revenu il y a 2 mois en se cachant dans Paris. L'imbécile.
Il aurait pu dire son nom à tout le monde sans être inquiété. On n'avait jamais établi de corrélation entre sa disparition et celle de Boissy.
Il n'en a pas moins pensé au coup du Père Noël.
L'argent n'était plus sous le plancher, mais tout bêtement sous son nez, dans ma boîte à ouvrage.
Dans 10 ou 15 minutes, votre mari sera ici. L'Orieux est en face qu'il guette, car il s'est renseigné. Alors, vous désirez les attendre tous les deux?
Emmenez-moi. Le temps de passer une robe.
De quoi m'accuserez-vous? Je n'ai rien fait. Je n'ai pas tué Boissy. Je n'étais pas là quand il est mort. Je ne l'ai pas aidé à cacher le corps.
Oh, ne vous inquiétez pas de votre sort. Vous avez gardé l'argent non pas pour le dépenser, mais pour le besoin de vous sentir riche.
Ça me regarde.
Et votre mari?
Je me fous de cet imbécile-là.
Et Colette?
Bon, après tout, elle a un père. Voilà, je suis prête.
Bien. Lucas, conduis la quai des Orfèvres. Je reste. Et n'ayez pas peur. L'Orieux n'est pas dans les parages.
Vous m'avez menti. Peau de vache!
Madame Maigret.
Oh, c'est bien la première fois que je ne t'entends pas rentrer.
Tu aurais dû te coucher au lieu de t'endormir dans le fauteuil.
Tu es seule? Tu n'as pas ramené la petite?
Non, pas cette nuit, non. Elle dort. Il est 1h30 du matin.
Oh, déjà?
Oui, j'ai eu une longue conversation avec Jean-Martin et la plus grande partie s'est déroulée en présence de son frère Paul. Et puis j'ai laissé les deux frères en tête à tête.
Et mademoiselle Doncoeur?
Il y avait de la lumière sous sa porte, mais elle n'a pas osé ouvrir, sans doute par pudeur. Et demain matin, en ayant bien soin d'être gentille avec mademoiselle Doncoeur, tu pourras aller chercher Colette.
Oh, c'est vrai?
Oui, je te ferai envoyer 2 infirmières et 1 brancard.
Alors nous allons la...
Chut! Pas pour toujours, tu comprends? Il se peut que Jean-Martin se console, il se peut aussi que son frère redevienne un homme normal, hein, et un jour un nouveau ménage.
Ah, en somme, elle ne sera pas à nous.
Pas à nous, non. Seulement prêtée. Les deux frères sont d'accord. J'ai pensé que ça valait mieux que rien, et que tu serais contente.
Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis contente, mais... Mais je... Oh.
Madame Maigret chercha un mouchoir, n'en trouva pas, et enfouit son visage dans son tablier. F-I-N. Fin.
C'était Un Noël de Maigret, de Georges Simenon. Adaptation Eulalie et Jean-Jacques Stein. Avec, dans le rôle du commissaire Maigret, Jean-Marc Thibault. Madame Maigret, Simone Renan. Lorraine Martin, Corinne Marchand. Mademoiselle Doncoeur, Madeleine Barbulé. Lucas, Pierre Tornade. Colette, Martine Régnier. Torrance, Henri Poirier. Paul Martin, Georges Carmier. Jean Martin, Philippe Derez. Arthur Godefroy, Claude Dasset. Les chauffeurs, Gaëtan Genre et Georges Aubert. Le marchand de valises, Pierre Guéant. L'employé de la consigne, Michel Dodane. Bruitage, Louis Matabon. chef opérateur du son Robert Altaber, collaboration technique Claude Calvez, assistante Dominique Briffaut, direction artistique Jean-Wilfried Garrett.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 novembre 1982. Rappelons que les éditions Omnibus publient l'intégrale des enquêtes du commissaire Maigret en 10 tomes, 75 romans, 28 nouvelles, avec des couvertures originales signées Loustal. Vous pourrez la réécouter, cette dramatique, en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
A little walk to the edge of town. Now spread your wings and fly. Don't the lights of the city look so damn pretty when you fly so high? It's hard to know that down below the streets, babe, are swimming deep in blood. That's enough to make a grown man cry. You really wanna know what's wrong with this land? I see you scratching your head with your red right hand. You see, everyone's a liar, baby. That's the truth. I said everyone's a liar, baby, and I got proof. You got a new boy, you feel you're in with a chance. You think you're in his arms, but you're in his hands. But still, he seems so cute and true, groovy. But to get that boy up on the stand and to watch him raise his red right hand. Use your lips, babe, to conceal his cries. He's a tracing a tiny finger down your spine. He's leaving behind a thin red line. Oh, don't get so sad when it all comes down so heavy. A low wind moans across his land as he rakes at your chest with his red right hand.
Pretty face.